Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes contents de vous retrouver. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs une heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle, ce soir avec l'auteur Pierre Guyotat. Par les temps qui courent,
ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le dans ce moment de présent.
Que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Toute réalité est idiote, en même temps indéfinissable, sinon négativement. Du fait même qu'on est singulier et comparable à rien, on est à la fois réel et indéfinissable. Ce qui fait l'énigme du réel ou l'énigme du monde, c'est d'être seul, en somme. Le monde est seul, comme un individu est seul. Quand Macbeth dit que le monde est une histoire racontée par un idiot pleine de bruit et de fureur, qui ne signifie rien, eh bien il est clair que le monde aussi est un idiot. C'est pas l'histoire qui est idiote, c'est pas l'historien ou la personne qui raconte qui est un idiot, c'est le monde aussi. Mais encore une fois, dans un sens qui n'est pas seulement le sens d'imbécile, aussi dans le sens de singulier. On est en 1998, il y a 20 ans, le philosophe Clément Rosset est alors bien vivant devant la caméra de Jean-Pierre Limousin et ce sont ses mots. Je me suis dit que ces quelques mots seraient une bonne entrée en matière pour notre discussion autour de votre dernier livre, Pierre Guyotat, parce qu'il s'appelle « Idiotie ». Il paraît aux éditions Grasset, il traite, vous le dites, de votre entrée dans l'âge adulte. De 1958 à 1962, vous avez alors de 18 à 22 ans. Bonsoir Pierre Guyotat.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là.
Il faudrait presque dire à la limite un écrivain, bon, qu'est-ce que c'est ? Il écrit, bien sûr, il écrit pour des lecteurs, un écrivain. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour ? Ça veut dire à l'intention d'un. Un écrivain qui soit, il écrit à l'intention de lecteurs. En ce sens, il écrit pour des lecteurs. Mais il faut dire aussi que l'écrivain, il écrit pour des non-lecteurs, c'est-à-dire pas à l'intention d'un, mais à la place d'un. Pour, ça veut dire deux choses. Ça veut dire à l'intention et puis ça veut dire à la place. Alors, Artaud a écrit des pages que tout le monde connaît. J'écris pour les analphabètes. J'écris pour les idiots. Faulkner écrit pour les idiots. Ça ne veut pas dire pour que les idiots le lisent. Ça ne veut pas dire pour que les analphabètes le lisent. Ça veut dire à la place des analphabètes. Je veux dire, j'écris à la place des sauvages. J'écris à la place des bêtes. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Pourquoi on ose dire une chose comme ça ? J'écris à la place des analphabètes, des idiots, des bêtes. Eh bien, parce que c'est ça que l'on fait à la lettre quand on écrit. Quand on écrit, on mène pas une petite affaire privée. C'est vraiment les connards, l'abomination de la médiocrité littéraire de tout temps, mais particulièrement actuellement, qui fait croire aux gens que pour faire un roman, par exemple, il suffit d'avoir une petite affaire privée, sa petite affaire à soi, sa grand-mère qui est morte d'un cancer, ou bien son histoire d'amour à soi, et puis voilà, et puis on fait un roman. Mais c'est une honte, quoi. C'est une honte de penser des choses comme ça. C'est pas l'affaire privée de quelqu'un à écrire. C'est vraiment se lancer dans une affaire universelle. Et que soit le roman ou la philosophie. Hein. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est que écrire, c'est forcément pousser le langage. Et pousser la syntaxe, parce que le langage, c'est la syntaxe. C'est pousser la syntaxe jusqu'à une certaine limite. Limite qui quoi ? Ben, qu'on peut exprimer de plusieurs manières. C'est aussi bien la limite qui sépare le langage du silence, que la limite qui sépare le langage de la musique, que la limite qui sépare le langage de quelque chose qui serait quoi ?
Illumination. C'est de la bête que je dois faire une œuvre. De l'idiot qui parle. Du rien. Encore un peu de psychologie française, de personnages. C'est dans le 4-4 de commandement que j'ai écrit quelques mois auparavant, en attente du chef de bataillon, le prologue d'un livre à paraître 2 ans plus tard. Et bientôt, l'épopée de l'idiot. Par l'idiot, détruire l'humanisme. Comprendre le monstre politique ou de camp. Le culturel n'a pas empêché la pire déshumanisation. De l'idée fixe. Qu'est-ce après tout qu'Antigone, qu'Électre ? Le Christ lui-même. Plus le mental et les préoccupations sont limités, plus le verbe est beau et ample. L'idée fixe comme percée et éclatement du réel.
Pierre Guyotat, c'est un extrait de votre livre « Idiotie » que vient de lire Romain de Becdelièvre. Et juste avant, nous entendions la voix de Gilles Deleuze dans l'abécédaire. Et encore avant, je citais quelques mots du philosophe Clément Rosset sur le réel et son traité de l'idiotie. Tout cela pour mettre en place peut-être une première discussion autour du titre que vous donnez à ce texte-là, « Idiotie ». Comment l'avez-vous choisi ?
Bah, il s'est imposé à moi dès que j'ai commencé à penser sérieusement à ce texte, enfin à l'ensemble de ce texte. Donc le titre m'est venu immédiatement, et donc je n'ai pas changé. Il est beaucoup plus brutal, beaucoup plus fort que tout ce que j'aurais pu en tirer, voilà. Mais moi, si vous voulez, bon, j'ai écouté Deleuze. Aussi cette référence à Artaud, c'est bien, c'est très intéressant. Très intéressant. D'abord, je pense que Artaud a dit ça, disons, dans certaines circonstances. Artaud avait une vie extrêmement rude. Il a dit ça, mais enfin, il a dit des choses aussi tout à fait contraires, voyez, comme Deleuze. Donc c'est un extrait, voilà, à prendre comme ça, comme une pensée d'un moment. Moi, si vous voulez, ce qui quand même domine, parce que j'ai beaucoup réfléchi depuis le temps que j'écris à cette question qu'on vous pose tout le temps. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi vous faites de l'art, etc. Mais en fait, on fait de l'art parce que il faut de la beauté, tout simplement. Il faut quand même pas oublier la beauté, si vous voulez. Alors, comment dire, on fait de l'art aussi pour... on fait de l'art dans une tradition artistique. Ne serait-ce que pour le bousculer, si vous voulez. Encore faut-il bien la connaître. Donc c'est surtout, pour moi, je me suis mis très jeune, si vous voulez, extrêmement jeune, au fond dans une lignée générale, qui comportait aussi bien des auteurs ou des artistes, disons, relativement convenables, et puis d'autres artistes que je découvrais, qui étaient beaucoup plus révolutionnaires. Mais c'est ça, si vous voulez, qui fait produire une œuvre. Et qu'est-ce que c'est? C'est la beauté, c'est du désordre ajouté au désordre du monde aussi, parce que l'art c'est pas commode, c'est pas facile. Quand vous voyez même des dessins de la croix ou des peintures de la croix qui sont exposés en ce moment au Louvre dans une magnifique exposition, vous comprenez tout de suite que l'art c'est du désordre, c'est de la tempête, du tourment, de la violence, si vous voulez, immédiatement. Mais c'est de la beauté. Mais pourquoi? Qu'est-ce que la beauté? C'est encore une autre question. Je pense qu'il faut jamais oublier ça. C'est que l'art reste tout de même l'expression de la beauté. Si vous voulez.
Puisque vous dites que c'est un mot qui vous est venu tout de suite et que vous n'en avez pas changé, idiotie, c'était un mot qui appelait quoi pour vous?
Oui, parce que pour moi, il y a aussi, chacun a sa définition, chacun a ses raisons au fond, de la produire. Moi, si vous voulez, chez moi, c'est que, le fait qu'il y ait une grande partie de ce que j'écris, c'est quand même de la fiction. Dans ma fiction, ce ne sont pas des personnages, disons, psychologiques encore qu'ils ont des comportements. Ils sont plus proches de l'animal, disons, ou de l'animal humain, ou de l'humain animal. Et si vous voulez, je parle à partir de ces figures. J'appelle figures des personnages, si vous voulez. En site académique, c'est des personnages. Moi, je dis figures parce que c'est beaucoup plus modeste, c'est beaucoup plus préhistorique aussi, si je peux dire, si vous voulez, beaucoup plus artisanal, beaucoup plus artistique, si vous voulez. Donc, j'ai des raisons, et ces figures sont des figures qui n'ont pas d'existence légale, si vous voulez, qui sont totalement, qui sont pas des objets sexuels, mais qui sont des figures, des, disons, des animaux sexuels, si vous voulez, qui donc ont un langage extrêmement libre, parce qu'ils n'ont pas d'état, ils n'ont pas d'état civil. Il y a à peine un vague état civil, comme ça, qui est gardé dans une, dans un coffre. Mais c'est tout, il n'y a rien, il y a une sorte de descendance animale, en quelque sorte. Donc ils disent ce qu'ils veulent, et qu'ils disent, c'est très beau, bien entendu, parce que c'est comme les servantes de Molière, si vous voulez, les servantes, bon, je n'ai rien inventé, vous savez, les servantes de Molière, elles disent ce qu'elles veulent. Elles sont soumises, effectivement, au renvoi, peut-être, mais enfin, on renvoie assez peu, finalement. Parce que les servantes sont, elles sont drôles, si vous voulez, elles animent la, au fond, elles disent la vérité, elles font le lien entre les gens. Elles sont des tierces personnes. Et moi, au fond, j'écris le langage de tierces personnes. Voilà. Qui sont ces putains, je parle de putains mâles et femelles. Donc, quand un langage éclatant, bien entendu. Parce qu'ils sont totalement libres, il n'y a aucune convention. En plus, ils imitent le langage humain, si vous voulez. Ils imitent le langage humain, ils sont mi-animaux, mi-humains. Donc, ils ont un langage totalement libre. Voilà.
Donc ce sont vos idiots, ces figures-là, d'une certaine manière.
Ben moi je dis c'est idiot, si vous voulez. Mais je dis idiot aussi au sens que je suis idiot moi-même. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le livre, c'est que j'ai par ailleurs depuis toujours, enfin depuis ma naissance, si je peux dire, une sensibilité absolument immédiate aux choses, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui émet une idée, enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais quelqu'un qui émet une idée, quelqu'un qui émet une condamnation ou qui émet un... qui met une condamnation surtout. Au fond, pour moi, c'est définitif. Disons, ça reste une sentence définitive, disons, pour quelques minutes. Après, je me ressaisis. Mais c'est ces quelques minutes qui font que je suis un artiste, au fond. Si vous voulez. Parce que j'ai peur en même temps. Donc, j'ai peur de ce que cette phrase qui condamne, condamne l'ensemble du monde, en quelque sorte, me condamne évidemment avec. Donc ce sont ces quelques minutes au fond, de déraison ou de hors-raison, si vous voulez. Cela dit, je suis comme les plongeurs, comme un plongeur extrêmement bas, si vous voulez. Et quand je remonte, je suis vraiment tout à fait raisonnable et tout à fait logique à ce moment-là.
Et prêt à respirer.
Voilà. C'est ça, il y a aussi évidemment la référence à Macbeth, bien entendu.
Et Faulkner qui prend la suite.
Oui, enfin, qui a été une de mes premières lectures. Avec Othello, et cette phrase surtout, qui me paraissait adolescent, totalement incompréhensible. Parce que pour moi, la vie était une chose très sérieuse, si vous voulez. Même si la mort n'existait pas tellement, la mort existait, bien sûr, quand j'étais enfant, mais enfin, elle n'existait pas réellement, si vous voulez. On pouvait revenir de mourir, si vous voulez. Mais en même temps, cette notion de, cette idée que, au fond, que la vie est un théâtre, aussi, la vie est un théâtre, que la vie est un conte, etc. C'est extrêmement scandaleux pour moi, parce que moi, vous savez, je sortais de la guerre, si vous voulez. Donc, on voyait les premières images des camps, etc. Et au fond, c'était un luxe, cette phrase.
Le monde est une histoire racontée par un idiot.
C'était un luxe. Maintenant, je comprends très bien, parce que maintenant, je suis plus âgé, évidemment, et j'ai compris très bien, effectivement, qu'on joue tout le temps, effectivement. Et on joue une idiotie, effectivement, c'est idiot. Même l'art est une répétition, un ressassement sans fin. Oui, non, c'est un ressassement. Je pense que c'est plutôt le ressassement, si vous voulez, que Macbeth. Du reste, il faut lire ce qui précède dans la tirade, qui est une tirade magnifique. Il dit « Éteins-toi, chandelle, par exemple, éteins-toi, lumière. » C'est-à-dire « Éteins-toi, ma vie, éteins-toi, ma vie. »
Mais aussi, éteins-toi, lumière, qui rend distinctes les choses.
Oui, mais en même temps, oui, mais on va pas... Non, mais c'est un désespoir total, si vous voulez. Et c'est un désespoir parce qu'au fond, il fait comprendre depuis le début que c'est totalement vain de vouloir ce pouvoir, que ça ne sert à rien, qu'il ne l'aura pas vraiment, ce pouvoir serait éclaboussé de sang, etc. Et il dit ça quand il apprend la mort de sa femme, dit Macbeth. C'est intéressant, il ne le dit pas avant. Et à ce moment-là, il est seul. Il est seul dans son crime, dans leur crime.
Il y a quelque chose qui m'a frappé au fur et à mesure de la lecture d'Idiotie, c'est le nombre de questions. Oui. Il m'a semblé que c'était des questions qui inquiétaient le livre lui-même, qui inquiétaient le texte, et qui par conséquent m'inquiétait moi en tant que lectrice, mais qui était une inquiétude motrice, parce que c'était une inquiétude qui ne me laissait pas choisir entre ce qui est décrit qui a lieu et ce qui est décrit qui est fantasmé ou qui est craint ou qui est imaginé ou qui est désiré. Est-ce que c'est une inquiétude qui a une traduction physique lorsque vous écrivez, Pierre Guyotat?
Ben, vous savez, c'est une chose que je fais beaucoup dans mes fictions aussi, parce que c'est des fictions, au fond c'est du théâtre, et au théâtre on interroge beaucoup. Dans le théâtre français par exemple, dans le théâtre classique, on interroge énormément, tout le temps, tout le temps. Vous voyez ? Racine, c'est tout le temps interrogatif. Parce que c'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que la chose n'est pas forcément sûre, si vous voulez. Qu'elle est au fond aussi, ben, qu'elle est peut-être idiote aussi, d'une certaine façon. Et moi, je fais ça depuis très longtemps. Et c'est une formule qui, au fond, qui a été assez abandonnée, je trouve. Maintenant, on affirme, vous voyez, c'est très publicitaire. Alors que moi, je suis encore de la vieille école, d'une certaine façon, je suis de l'école oratoire. Il y a ça dans Bossuet, il y a ça dans tous les grands, il y a ça dans Hugo, il y a ça dans tous les grands écrivains. Hein. C'est tout à fait normal. Tous les grands dramaturges.
Mais pour autant, ça ne m'a pas semblé, moi, être qu'une seule forme rhétorique. Il me semblait que c'était des questions qui étaient réelles. Quand elle laissait suspendues ou indéfinies les choses, elle le faisait vraiment.
Voilà. Il y a aussi une chose, c'est que dans ce texte, comme c'est un texte qui se souvient, en quelque sorte, il y a des choses dont je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà. Alors ça, donc ça s'ajoute. Ça s'ajoute à l'interrogation qui est un peu la base de mon système rhétorique, si vous voulez, de toute façon. Donc j'aimerais qu'il soit vraiment la base, on va dire.
La question ?
Au fond que tout, oui, tout soit interrogation.
Bon, pour autant, il y a quand même des choses qui se terminent par un point dans votre texte.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que vous en êtes plus certain ?
Oui, mais le point, je n'ai jamais tellement aimé le point. Vous savez, il y a beaucoup de textes de moi qui n'ont pas de point, qui se terminent par des virgules ou des points-virgules. Et de plus en plus, du reste, pour moi, la vie n'est pas une chose qu'on peut affirmer. On ne peut pas affirmer qu'on vit, on ne peut pas affirmer qu'on est, ce qui est très différent. De plus en plus. C'est des questions que je ne me posais pas, évidemment, quand j'avais 15 ans ou même 20 ans. Pas encore.
Il y a un passage de votre texte qui dit « Comment se penser fixé ?» Comment faire en sorte que nous qui sommes composés d'atomes, le langage aussi, puissent d'un seul coup être fixes ? Comment penser le péri ? C'est un passage qui se termine comme ça. Comme si ce texte, à la base de ce texte, il y avait le désir d'un seul coup de savoir comment il est possible d'être un instant quelque chose, d'être un instant fixe. Est-ce qu'il y a, Pierre Guyotat, dans ce qui vous a mis en route pour écrire le texte, quelque chose de cet ordre-là, fixé ?
Mais peut-être oui, parce que c'est une angoisse que j'ai depuis très longtemps. Et parce que quand on veut se fixer, il faut se fixer totalement. Il faut que c'est avec tout, si vous voulez.
Et tout le monde.
Vous savez, il y a un exemple très intéressant en art. Mais c'est pareil en art. Vous savez, Schoenberg, quand il a repris, Moïse et Aaron, après toute cette interruption du nazisme, il a repris et il était perdu. Parce que c'était une partition extrêmement compliquée, extrêmement complexe, avec toutes les voix. C'est-à-dire, tout était écrit, apparemment, enfin, d'après ce que je sais. Tout était écrit, mais toutes les portées étaient pleines. Et donc, il n'avait pas vraiment de plan, après. Vous voyez, de lignes claires pour continuer. Donc, il a fallu qu'il reparte à partir de cet effroyable tissu. Terrible. Et magnifique. Et il a mis beaucoup de temps à retrouver le fil. Vous savez, c'est comme quand vous coupez une tête, j'imagine. Vous coupez, il y a des nerfs, des muscles, des os, etc. Et il était exactement de cette position-là. Parce qu'au fond, je crois qu'il n'avait pas fait de plan plus simple pour la fin, le plan musical, hein. Il s'est retrouvé donc devant une énormité parfaite. Toutes les voix, tous les rimes, toutes les notations écrites, oui. Enfin, quelques années après, c'est très difficile. Et il y a eu un moment d'affolement. C'est un exemple extrêmement intéressant.
Et vous
assez peu connu, mais très
fut,
intéressant.
Vous parlez de lui parce que ce fut votre cas avec cette matière pour Idiotie ?
Comment ?
Vous vous êtes trouvé dans cet état-là avec la matière
non,
pour Idiotie ?
Non, pas du tout. Non, mais je trouve que c'est un exemple très intéressant qui montre qu'il y a, au fond, il y a deux façons de vivre. Enfin, il y a, entre autres, il y a une façon de vivre, au fond, de façon très linéaire, puis une façon de vivre vraiment avec tout. si vous voulez, en sachant tout, vous voyez. Quand vous essayez de dire moi, c'est extrêmement compliqué. Ben, si il faut vous intégrer votre moi d'enfant, votre moi de bébé, d'enfant, d'adolescent, d'adulte, etc. Il faut vous intégrer tout ce que vous avez, enfin, disons, le maximum que vous avez vécu. C'est un espèce de rassemblement qu'il faut faire. Et l'art, c'est ça aussi, si vous voulez. C'est que, la production d'art, c'est ça. C'est, vous pouvez commencer quand vous avez ce mouvement interne extrêmement puissant qui rassemble tout. Et là, vous avez un moment d'exaltation extraordinaire, de tristesse immense en même temps, devant cette énormité. Et là, vous vous mettez à écrire ou à produire, etc. C'est une sorte de... Bon, il y a donc la tristesse post-coïtale, mais il y a aussi cette tristesse pré-productrice, de toute façon, en art. C'est nécessaire. Mais c'est ça, au fond, qui produit cette tristesse. C'est qu'il faut se rassembler pour...
Mais une fois qu'on est fixé,
si on veut produire quelque chose d'intéressant... Je me dis que, comme dit Deleuze, quand on veut raconter la mort, etc., ou je vois quoi, c'est pas la peine. Voilà, on prend, voilà, 16h20. C'est rien. C'est ce qui se fait beaucoup. Ce qui se fait beaucoup depuis quelques années. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a des autofictions très remarquables aussi.
Quand vous dites, Pierre Guyotat, que quand on se fixe pour produire quelque chose, il faut se fixer avec tout ce que nous sommes, mais aussi avec tout, j'entends aussi les autres êtres humains, animaux, l'environnement. Il y a quelque chose dans ce texte idiotie qui est très fort sur la manière dont vous rendez la totalité des sensations. En tout cas, on a l'impression qu'en écrivant, vous vous donnez la peine de rendre le plus de sensations, au sens sensoriel du terme, possible.
Bien sûr, oui. Mais vous savez, c'est ce qu'on nous disait quand on était enfant, quand on faisait des rédactions. Il fallait décrire tout ce qui était autour. Moi, je n'écris pas, si vous voulez.
Vous faites entrer, c'est pas exactement la même chose.
Oui. Oui, mais enfin, on nous disait ça. Moi, je suis des principes extrêmement simples, hein, des principes...
Vous êtes bon élève, quoi.
Des principes d'enfant, oui. Ben, oui, j'étais un relativement bon élève, en français. En français, en latin, en grec, mais le reste, c'était... Tout ce qui était scientifique, c'était évidemment désastreux. Les mathématiques, c'était pour moi une terre inconnue. Une terre inconnue, oui, mais à conquérir. J'ai toujours envie de conquérir les mathématiques, du reste. Du reste, mais c'était ça. On nous disait aussi de ne pas faire de clichés, si vous voulez. Vous rendez compte que cette époque-là, on nous demandait de ne pas reproduire les clichés, de ne pas faire d'adjectifs. Ça, déjà, dès la cinquième. Ça, j'ai pas oublié ça. Les bons pères, comme on disait à l'époque, étaient extrêmement sévères là-dessus. Il fallait pas mettre des adjectifs automatiques. Qui sont maintenant partout, bien entendu. Dans la publicité, dans partout, et même dans les livres.
Et vous vous sentez tenu encore aujourd'hui, lorsque vous écrivez, d'écrire bien selon ces règles-là?
Oui, bon, enfin, ce sont des règles que j'ai intégrées, que j'ai vérifiées par la pratique. Non, je ne suis pas...
Vous n'êtes plus bon élève pour être bon élève.
Bon, je n'étais pas un très bon élève, disons, je savais bien, disons, oui, je savais faire des rédactions, par exemple. Très bien. Très bien. C'est intéressant, j'ai souvent raconté cette histoire, du reste, j'étais... En cinquième, on avait fait une rédaction sur le retour du troupeau, parce que c'était une école donc en pleine campagne. Le retour du troupeau, le soir, quand les vaches reviennent à l'étable. Et alors, moi qui n'étais pas du tout fils de paysan, j'avais fait donc un texte, une rédaction, et j'avais été premier. Et le second, c'était un paysan, c'est un fils de paysan, qui en principe aurait dû mieux connaître, si vous voulez. Et là, ça avait été remarqué. Et j'étais déjà très ennuyé, moi, d'avoir une sorte de primauté. Parce que tout simplement, je savais déjà un petit peu mieux, vous voyez, d'écrire, raconter, mettre en place les choses, simplement. Mais moi, j'étais extrêmement triste de cette première place, en quelque sorte.
Parce que c'était comme une sorte de primauté sur le réel ou sur le vécu?
Non, c'était une primauté sur celui qui aurait dû... Oui, l'expérience. Il n'est pas nécessaire pour faire de l'art de connaître bien les choses, vous savez. Ça, c'est un autre métier, ça. Vous voyez, Zola n'est pas grand parce qu'il a fait des enquêtes sur le terrain. C'est parce que aussi c'est un lyrique, parce que aussi c'est un grand lyrique, Zola. j'aime pas tellement, mais c'est un très grand lyrique. C'est dommage qu'il n'ait pas du reste poursuivi dans cette voie-là. Mais toutes les notes qu'il a prises, nous, au fond, n'ont pas servi à grand-chose. C'est pas suffisant. Il faut aussi imaginer. Il faut que rien ne soit donné, si vous voulez. Il faut que tout soit une énigme pour avancer. Une énigme ou quelque chose d'inquiétant, d'attirant, d'attractif, de trop attractif, etc. Si on sait tout, c'est pas intéressant.
Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris. Travailler maintenant, jamais. Jamais. Je suis en grève. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète. Et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve à violon et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. À Georges Isambard, Charleville, 13 mai 1871.
Quelques mots de cette fameuse lettre d'Arthur Rimbaud, lue par Denis Lavant, Pierre Guyotat, parce qu'à plusieurs reprises, lisant votre texte « Idiotie », quelques lumières de Rimbaud arrivent, je ne sais si c'est volontaire. Par exemple, le morceau de texte que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre tout à l'heure commençait par « Illumination ». Et dans ce qu'on entend là de la propre reconnaissance de Rimbaud par lui-même en tant que poète, il me semble qu'il y a des choses sinon similaires, en tout cas en résonance, dans la manière dont vous vous écrivez « Jeune homme ». Certains du projet de renouvellement de la littérature que vous portez en vous. C'est une des choses très fortes que raconte Idiot aussi, la puissance de votre conviction d'avoir, d'une manière ou d'une autre, quelque chose à faire avec la langue française.
Oui. Mais ça, c'est très... Bon, c'est un texte magnifique. Enfin, c'est une lettre. Dans tout jeune homme, donc. Bon, enfin, tous les jeunes hommes... Enfin, tous ces jeunes hommes-là pensent la même chose, éprouvent la même chose.
Ne disent pas exactement de la même manière.
Oui, mais enfin, voilà, c'est pareil. On a éprouvé la même chose. C'est pas... Ce que je veux dire, c'est que... En fait, quand on commence à écrire, on a tout de suite envie d'écrire du nouveau. Si vous voulez. En tout cas, personnellement. Je pense que... On est vraiment artiste si commence à en produire de l'art, on veut faire du nouveau. C'est évident. C'est une chose qui me paraît oubliée aujourd'hui. Hélas, c'est vrai. Peut-être que non, je ne sais pas. Je ne connais pas assez la jeune littérature, la jeune, je ne sais pas. Mais c'était très fort de mon temps, si je peux dire. Très, très fort. Quand j'avais 15 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 40, 45, c'était encore très fort. L'idée que l'art est une suite de révolutions, si vous voulez. C'est une révolution en art. J'avais énormément d'émotions, par exemple. À entendre ou à voir dans une œuvre les prémices de l'œuvre future ou de l'œuvre qui suit, si vous voulez, chez un même artiste et aussi d'un artiste à l'autre. C'est extraordinaire quand vous entendez les premières notes, si je peux dire, enfin les premiers moments atonaux dans Schoenberg. C'est formidable. Par exemple, je parle de Schoenberg parce que Schoenberg est un moment. C'est un grand révolutionnaire. Quand vous sentez que la tonalité n'est pas suffisante et qu'il faut aller vers la tonalité. Et là, on le sent dans une œuvre qui commence à peu près normalement. Et après, vous avez un mouvement où ça commence. Et c'est extraordinairement émouvant. Je ne sais pas si les gens aujourd'hui, enfin les gens qui font de l'art, sont sensibles à ça. Moi, c'était extraordinairement fort tout ça. Et c'est C'est vrai en peinture, c'est vrai en tout, si vous voulez. Le moment où chez un artiste, il y a un basculement vers le futur.
Et puis, il y a ce que vous décrivez dans Idiotie, le moment où cette personne-là, artiste, vous dites oui, tous les jeunes hommes, en tout cas tous les jeunes hommes de cette sorte-là, ont pensé la même chose, ont éventuellement écrit la même chose. Mais là, vous l'écrivez bien des années plus tard, Pierre Guyotat, et il semble que ce soit très précis la sensation que vous aviez à l'époque, qui était d'avoir une place, et que cette place était dans la poésie. Et presque nulle part ailleurs.
Pas du tout, non, pas du tout. Jamais pas. Une place.
Pas, j'entends une place, pas une place dans le répertoire de la poésie, mais votre place d'existence.
Pas du tout. Non, non, j'ai été vraiment saisi très tôt par ça. D'abord, j'ai fait de la peinture d'abord. J'ai énormément aimé la musique, mais je n'en ai pas fait. Et voilà, c'est l'ensemble de l'art. L'ensemble de l'art qui m'a fait comprendre que je devais aller là. Non, c'est une vocation, quand vous avez à peine 10 ans, que vous écoutez une œuvre musicale et que vous êtes extraordinairement ému, donc par un seul mouvement ou par un seul thème, par exemple, vous vous dites c'est quand même très surprenant d'être extrême. Bon, pas un thème disons de musique, d'une musique d'ameublement comme de Resati, si vous voulez, pas un thème de musique de, oui, enfin, une grande musique. Ou alors un vers, quelque chose comme ça, si vous voulez. Un vers de tragédie ou un texte de comédie. Vous pensez qu'il y a quelque chose. Vous posez des questions déjà, très tôt, si vous voulez. Donc c'est pas... On se sent effectivement pris dans une filiation. J'ai été... Et au fond, mon idée, mon but, c'était au fond, non pas de m'inscrire, mais d'être au fond avec tous ces grands maîtres qui nous ont précédés. Et d'être peut-être un jour, je sais pas, un maître comme eux, j'en sais rien. Vous savez, c'est une phrase de Debussy, vous savez, au début, il disait, moi, mon but, c'est d'être entre Schumann et Chopin. Ben, au fond, oui, il l'est, mais enfin, il est peut-être un peu plus aussi, un peu en dehors aussi.
Et ce qui est assez puissant, c'est que cette certitude-là, ou cette manière d'être attrapé par la poésie...
Mais d'être, si vous voulez, excusez-moi, mais il disait d'être... C'est-à-dire, non pas de figurer, etc., non pas d'être dans le dictionnaire, mais d'être, entre. Parce que tous ces artistes, si vous voulez, tous ces grands artistes, certains en particulier, comme Schumann, par exemple, pour moi, ou Gauguin, ou Rimbaud, par exemple, ont été des maîtres, au fond, qui remplaçaient même ma famille, si vous voulez, qui remplaçaient mon père, par exemple, qui remplaçaient même ma mère, qui remplaçaient même mes frères et sœurs, si vous voulez. On se sent pris dans une confrérie qui n'a rien à voir avec une confrérie naturelle, si vous voulez. Tout en restant bien entendu, très aimant et très aimé, bien entendu. Mais il y a ça, on se sent appelé.
Appelé comme le jeune homme que vous avez été en Algérie, et j'ai une scène qui me revient en tête.
Alors c'est un autre appel.
Oui, c'est un autre appel, mais en même temps les deux se rejoignent dans votre texte, et j'ai une scène où d'un seul coup vous êtes sommé de devoir justifier le personnage, de devoir justifier des vers écrits durant un interrogatoire, et ces vers sont lus devant le jeune homme qui les a écrits, et d'un seul coup il sent que l'air se rafraîchit à la faveur des mots qui sont lus dans la pièce, y compris par ses supérieurs qui sont méprisants. Et
ce ne sont pas des vers, ce sont pour moi des phrases.
Juste des phrases, en effet. Ouais. Dans ma tête, c'était des vers. Et le jeune homme regarde finalement la puissance de sa poésie se déployer dans un moment où ce n'est pas du tout fait pour. Est-ce que vous vous souvenez, vous, pour l'avoir écrit, vous avez été obligé d'aller chercher la sensation de ce rafraîchissement de l'air par votre propre prose?
Parce qu'au fond, j'en étais pas tellement conscient. Et c'est le fait qu'elle passe par la bouche de quelqu'un qui était mon persécuteur, disons, provisoire. Mais ça a fait beaucoup. Ça a fait beaucoup pour moi, pour que je comprenne la... Oui, enfin, c'est ça, au fond, la fraîcheur, déjà. La fraîcheur de cette, disons, la vivacité de cette peau. C'est pas ça qui m'a renforcé, du reste. Je me suis renforcé autrement, devant lui. Mais c'est vrai que ça, un temps comme ça, ça m'a fait comprendre, effectivement, que cette prose n'était pas indifférente, disons. Elle avait aussi pu un éditeur, aussi, qui était pas des moindres, quand même. Déjà. Mais c'est vrai que dans ce bureau, dans ce petit livre tout frais, tout, très joli, c'était un curieux moment. Il lisait très bien, du reste, il lisait bien, en plus. C'était un lieutenant-colonel, hein. n'y a rien de tel que d'être lu par un représentant de l'autorité. Et d'autorité mortelle, quand même, parce qu'ils avaient quand même le pouvoir de tuer, quand même. Enfin, j'en parle maintenant avec beaucoup de détachement, enfin, sur le moment, c'était très inquiétant. J'aurais très bien pu me retrouver quelque part dans un bain militaire, etc. Heureusement, je sais pas comment ça s'est passé autrement. J'ai dû les décourager sans doute pour mon idiotie, certainement.
La revoilà. Comme toutes les autres scènes, Pierre Guyotat, cette scène-là, ou bien des scènes d'arrivée à Paris, ou bien des scènes de désir, des scènes de vision de corps féminin ou masculin parfois des entre-ouvertures de portes. Oui. Tout ça, ce sont des choses que vous décrivez avec une très grande précision.
Oui.
Est-ce que c'est parce que le souvenir en était vif? Est-ce que parce qu'il y avait des notes qui restaient de cette époque-là?
Non.
Est-ce que parce que vous mettant au travail, cette précision vous est revenue avec force?
Oui.
Comment expliquez-vous que ce texte-là soit si précis sur ce qu'on y sent?
Ben, vous savez, je suis un fictionneur d'abord. Hein, je suis pas un romancier, je suis un fictionneur. Donc, je suis habitué à faire bouger les figures dans un lieu précis, si vous voulez. Et comme je n'aime pas qu'il y ait de phrases psychologiques, donc je fais jouer de la matière, si vous voulez. Donc, je fais jouer les déplacements des corps, les gestes, les mimiques, etc. Les physionomies. Donc, les odeurs, tout ça. Très important, les odeurs. Et puis, un ensemble qui produit une sorte de septième sens, presque, d'une certaine façon. C'est vrai. Ça m'a été dit sur ce texte, du reste. Bon, j'avais inventé un sens nouveau.
Ça vous plaît?
Oui, c'est intéressant, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je mets en regard tous les sens. Tout ce qui se produit par ailleurs dans la scène que je veux mettre au point, si vous voulez. Autour de ce qui est dit, autour des dialogues, etc. Et moi, c'est un mouvement naturel chez moi. C'est pas. Il faut être précis, exact.
Alors, en même temps, vous précisez que vous êtes un fictionneur, comme si cette précision n'avait rien à voir avec le fait de rendre une quelconque vérité.
Ah non, mais la fiction. Non, la fiction, c'est la vérité. La fiction, c'est la vérité. C'est bien entendu que c'est la vérité. C'est une chose que j'ai découverte aussi beaucoup. Vous savez, il y a une phrase à propos de Julien Sorel, qui est très étonnante. Il ne connaissait rien de la vie, il n'avait même pas lu de roman. Intéressant. Parce qu'on apprend beaucoup dans les romans. Dans la poésie, et dans le théâtre, et dans l'art en général, on apprend beaucoup. On apprend tout autant, je pense. France Culture, Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Un soir, j'entre dans une salle peu chauffée, revoir le carrosse d'or de Jean Renoir. La lettre de mon père est dans la poche intérieure de mon blazer, dans l'attente du film et les mouvements des autres vers la vendeuse de caramel qui passe, corbeille au sein, entourée de spectateurs en manteau, mine bienveillante. Je sors la lettre du chaud de ma poitrine et, ôtant mes lunettes, lis, sourcils contre le papier. La fin, la signature, non pas ton père, mais papa. La neige fond sous mes semelles, non pas du peu de chaleur de l'air, mais comme de celle qui me descend du cœur. Plus le film avance, plus le cœur me serre de ces vies chaudes, présumées réelles et présumées théâtres confondus, de ces communautés solidaires, de ces dons, de ces retraits, de tous ces corps bariolés qui se cherchent, se reflètent, se désirent. Toute l'humanité, active ici, fausse, vraie, dont je suis exclu, les couleurs renforçant leur vitalité qui me déchirent. Ce carrosse d'or, lourd et vain, l'angoisse me saisit de son vide comme le mien dans l'enveloppe terrestre. Je sors avec les autres, rentrant mes larmes dans mes paupières.
Pierre Guyotat, Romain de Becdelièvre lit un nouvel extrait de votre texte « Idiotie ». Et c'est un moment où se mêle le réel du cinéma et un autre réel qui est une lettre sortie et lue, à peine lue, une lettre du père. Et à la fin de ce paragraphe, on ne sait pas si les larmes rentrées dans les paupières sont des larmes dues à l'expérience artistique du film, ou celles peut-être dues à la lecture de la lettre du père. Comme souvent, c'est assez indistinct. Qu'en diriez-vous ?
Je ne veux rien en dire que ce qu'il y a dans, que ce qu'il y a dans le texte. Oui, ce film, oui. Ce film m'a presque sauvé à cette époque-là, de toute façon. Oui. Ben, c'est aussi. Ben c'est la même chose sur Macbeth, c'est-à-dire le théâtre, voilà. La vie est un théâtre. Donc si c'est un théâtre, il n'y a peut-être pas de quoi prendre la vie au sérieux. Peut-être. Sauf quand on est obligé de la prendre au sérieux. Mais même quand on est obligé de la prendre au sérieux, je pense que l'être humain s'arrange, il tient à avoir une... Je pense même que dans certaines circonstances absolument tragiques, mortelles, l'être humain reste très conscient de son être et de son paraître. C'est très beau, du reste, c'est extrêmement beau, je pense. Je pense absolument. Même dans les moments les pires, même quand on a plus qu'un corps qui est un espèce d'amado, si vous voulez, je pense que cette volonté de rester debout, de paraître beau, enfin, acceptable, demeure. Beau, digne.
La figure du père, elle est présente par cette lettre qui arrive, elle est présente à d'autres moments, notamment dans le récit d'un vol, qui est une sorte de noyau dur autour duquel tourne aussi la culpabilité,
oui.
La question du mensonge,
oui.
Dire la vérité ou ne pas la dire. Ça aussi, ça fonctionne comme un moteur, presque aussi fort que celui du désir pour le jeune homme qui existe dans le texte,
oui.
Idiotie, la culpabilité. Cette scène-là du vol, est-ce que vous l'imaginez comme une sorte de... Oui, de noyau dur, comme une sorte de noyau nucléaire de ce texte?
Ben, ça a été un noyau dur dans ma vie, disons, de l'époque. Après, bon... Mais vous savez, la kleptomanie, enfin, si on peut dire la kleptomanie, c'est pas vraiment la kleptomanie, mais le vol est lié à la sexualité, hein, c'est une vieille chose. Voilà, je peux pas en dire... Mais chez moi, ça a pris hein, une tournure absolument dramatique. Mais c'était nécessaire, sans doute. Enfin, on dit ça après, bien entendu. Ça a été une première expérience de la dépression, disons. Voilà. Une première expérience. Une dépression de jeune homme, hein, une dépression de jeune homme, ce qui n'est pas tout à fait pareil.
Justement, vous dites beaucoup, les choses ont changé, je le pensais comme ça à l'époque, et puis aujourd'hui ce n'est pas pareil, sans en dire grand-chose, Pierre Guyotat, mais comment avez-vous pu écrire ce texte de jeunesse, en l'écrivant avec la force et la puissance du jeune homme que vous étiez, avec votre corps et votre esprit du jeune homme que vous n'êtes plus?
Mais il y a une chose, je suis très habitué dans ce que je fais, dans mes fictions, à rester exact et à rester au niveau de la figure qui parle. C'est-à-dire que je ne vais jamais prêter à telle figure un discours qu'il est incapable d'avoir, si vous voulez, bien entendu. Et moi, c'est pareil. Quand j'ai... Même dans certains livres, comme le livre, par exemple, un livre des années 70, donc je remontais dans l'Antiquité, par exemple, eh bien, je me mettais vraiment à la place des gens de l'Antiquité. Donc je ne cherchais pas à faire d'anachronisme, si vous voulez.
Donc le jeune homme,
j'en ai fait certainement.
Le jeune homme que vous regardez, que vous écrivez.
Oui, mais j'essaie vraiment d'être au plus près de lui.
Vous ne le jugez pas, vous ne le regardez ni de haut ni de bas.
Ah oui, mais ça c'est le dédoublement. Je suis ce que je suis. Il y a une scène qui est peut-être importante dans le livre, qui est, moi c'est celle qui me touche le plus, c'est cette rencontre avec ce vieil avocat, donc qui m'emmène à Alger, qui m'emmène chez lui, qui me fait coucher chez lui, tout ça. Donc avant je rejoins mes camarades ailleurs. Et là il y a une nuit comme ça que je passe, une première nuit civile en quelque sorte, avec des vrais draps, etc. Il y a une Bible aussi que je lis. Et donc si vous voulez, j'ai fait cette espèce de scène pour qui sera peut-être la matrice de quelque chose d'autre après, je ne sais pas, entre un très vieil homme qui est revenu de tout, qui a un revolver à côté de sa main pratiquement. Et puis ce jeune homme qui connaît pas mal de choses déjà, mais enfin qui veut évidemment en connaître plus, et qui a la force de son corps, de l'énergie de son cœur, etc. Voilà. Et là, j'ai essayé d'être les deux. Mais j'ai pas de mal. Parce que je suis naturellement les deux, si vous voulez.
C'est-à-dire que vous êtes tout le temps le jeune homme que vous avez été, qui a découvert Paris.
Oh, même pas le jeune homme, je suis même l'enfant. Mais comme tout le monde, si vous voulez. Je pense qu'on est, à peu près bien dans la vie quand on reste aussi l'enfant qu'on a été. Enfin, quand on s'en souvient, en tout cas. Il faut s'en souvenir aussi pour comprendre les enfants aussi, pour les comprendre. Pour comprendre les jeunes. Disons les gens jeunes. Mais l'enfance, c'est très important. La petite enfance, bébé. C'est très étonnant quand même que l'homme ne puisse, se souvenir de, à ce point, au fond des premiers mois de sa vie.
Bah, écrire la manière dont vous le faites.
Non, mais c'est quand même.
Sensations.
Non, mais c'est un manque, qu'on ne sache pas. Qu'on ne puisse pas se souvenir de ce qu'on, au fond, des sensations qu'on avait. On en retrouve en voyant des bébés dans la rue, bien entendu, ou ailleurs. Mais c'est au fond assez terrible que, au fond, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, il y ait au fond 6 mois, voire même plus pour certains, complètement noir, complètement inexistant.
Moi, je ne crois pas qu'il soit ni noir ni existant. Moi,
mais si, ça l'est. Ça l'est parce que vous ne pouvez rien mettre dessus. Si.
Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Non,
en
moi,
nous.
Je peux parce que je me souviens. J'ai une bonne mémoire, donc je me souviens de choses très anciennes, c'est vrai. Donc, vous savez, la majorité des gens, c'est quand même, ça commence, les souvenirs commencent à 4-5 ans, pas avant. Il y a donc toute une période très importante dont on ne se souvient pas. Les sensations qu'on avait, on peut les trouver par moments. Peut-être dans la folie, on retrouve ça, ou dans d'autres moments, on retrouve ça.
Mais vous croyez que ce dont on n'a pas souvenir, ça n'existe pas en nous ?
Ah, oui, bien sûr que ça existe. Mais enfin, oui. Non, ça existe sans que vous puissiez mettre des mots dessus. Donc ça échappe à votre raison, si vous voulez, simplement. Il y a toute une partie de votre vie qui vous échappe, totalement. Même si vous êtes le. Déjà, le fait de penser, quand vous avez l'âge que j'ai, de penser que j'ai eu 5 ans, par exemple, et que c'est le même moi que je trimballe depuis ce moment-là, si vous voulez, c'est quand même très inquiétant, c'est quand même très lourd, très, très inquiétant.
C'est très lourd, c'est pas très riche.
C'est lourd, c'est inquiétant par moment, c'est affolant par moment aussi, et c'est terrible, oui, parce que c'est le même moi. C'est le même moi, alors un petit moi qui pesait très peu, après ça devient un moi qui pèse tout. Qui pèse le monde entier. Et c'est pas fini en plus. Normalement. Mais c'est le même toujours.
Le danger me fait lui prendre son épaule qu'elle secoue pour assurer son poing sur le manche. Elle murmure et, ôtant sa main de la mienne, l'avance fermement, index droit, vers la gueule du chien. Il penche la tête, geint, lâche le morceau de viande entre les chevilles du garçon, retourne sa gueule vide vers l'entrecuisse, y fouille le tissu. Un essaim de mouche cingle vers la carne. Le rire de gorge de la fille lui fait ressurgir le sang sur le short vers lequel mon poing, dans l'urgence, commençait à descendre. Pour prendre, empoigner cet interdit avant de, plus tard, le regarder, le détailler, l'apprivoiser. Le toucher de plus nu que ma main, lèvres, langue, puis membres. Le face à face enfin, puisque c'est l'usage. Ainsi, cœur, esprit, futur ont en moi affronté la poésie. Ma main sur sa nuque pour, par sa paume excitante, réduire, figer ce sang, celle qui voluptualise, apaise, soigne, réencourage. Mon membre, c'est elle à présent, une vivante, pas un muscle ni du texte, ni soumise ni asservie, de cet infini servage de la femme qui m'interdit, dans le même temps que les figures de l'esclavage, possession de corps humain par l'humain, entre dans ma poésie pour n'en plus sortir, de poser la main sur elle, le membre mâle, au-dessus, la pénétrer offerte, au-dessous, perpétrer ce viol sans fin de la chair, de quoi se nourrit la vie. Et qu'elle puisse en jouir, en rechercher la jouissance, n'y change rien. Notre mère râlait de plaisir sous mon père, comme je l'ai entendu râler son agonie. Son d'enfer. Nous sommes tous des enfants d'esclaves, de serves, d'asservis.
Dragonfly lying in a coat of snow. Dragonfly laying in a coat of snow. Dragonfly. I'll send to kiss your heart for me.
Pierre Guyotat, Romain de Bec de Lièvre, lit un dernier extrait de votre texte « Idiotie ». C'est un passage qui m'a énormément marqué. On est dans une deuxième partie de votre livre en Algérie et il y a une rencontre avec une toute jeune fille et un tout jeune homme et ainsi qu'un chien. Je dis marquant parce que justement, je trouve que c'est un des passages si forts où on ne sait finalement pas ce qui se passe, où on ne sait pas toujours ce qu'il est en train de se passer. Et c'est aussi un passage marquant parce qu'il est question, dans le passage que vient de lire Romain, du corps de la femme, d'une manière particulière, pas exactement de la même manière qu'il a pu apparaître au départ lorsque le jeune homme découvre, appelle, veut le corps de la femme. Là, il dit « Nous sommes tous des enfants d'esclaves, de serves, d'asservis ». J'ai trouvé que, puisque vous disiez tout à l'heure, ne prêter aucune autre pensée que celle du penseur, que celle que pouvait avoir ce jeune homme à l'époque, que c'était une pensée très violente ou très violemment contemporaine que d'écrire ça.
Oui. C'est une scène que j'ai écrite, toute cette grande scène, donc, dans cette demeure abandonnée. Donc, c'est une scène que j'ai écrite, en fait, au début, après la découverte du titre. Je l'ai écrite tout de suite. Et après, j'ai fait le reste, le début et la fin, après, bien après. Donc cette scène est très longue, effectivement. Voilà. C'est une dernière scène que j'ai vécue en Algérie, bien entendu. Oui. Que puis-je dire d'autre que... Certains ont dit que c'était une scène hitchcockienne. Et c'est assez juste, je trouve. Avec le sang, comme ça, la salle de bain, etc. Mais c'est un livre, de toute façon, qui est plein de femmes, partout. Depuis le début jusqu'à la fin. Et toutes sortes de femmes.
Et regarder de manière, de plein de sortes différentes.
Oui, tout à fait, oui. Tout à fait.
Pourquoi je dis violemment contemporaine ? Parce que j'ai l'impression que la manière dont vous faites penser au jeune homme la pénétration, l'asservissement du corps de la femme, y compris quand elle y trouve jouissance.
Oui.
La manière dont la vie se nourrit de ce que vous appelez viol,
oui.
Je trouve que c'est une manière d'avoir conscience de ce que c'est que pénétrer
oui.
à 20 ans, qui est
oui.
singulièrement...
Oui. Vous m'aidez. Ah oui, c'est ça. Donc quand on prenne dans ce sens-là, oui.
Non, mais c'est-à-dire consciente, d'accord. Quoi. Je ne sais pas comment dire fait, autrement. Oui. Extrêmement consciente.
Oui, j'ai eu le sentiment très tôt, bien entendu.
Extrêmement consciente.
Très tôt.
Qui plus est dans la guerre, enfin, je veux dire, je suis confuse parce que c'est difficile peut-être d'être précise sur ma pensée, mais je me dis, bon, donc on parle d'un jeune homme qui n'a pas 20 ans, qui vient de traverser l'Algérie dans un chaos incroyable, qui se trouve face à face avec une jeune fille qu'il désire et qui est aussi en mesure de penser ce que c'est que la pénétration des hommes.
Oui.
C'est beaucoup de choses, quoi, pour un
tout
petit
à fait,
cerveau
oui.
de jeune homme.
Bah, c'est une idée que j'ai eue tôt. Qui m'a coûté très cher, d'une certaine façon, peut-être, pour la vie future.
Pourquoi ?
Ben si, parce qu'après, vous avez peur, si vous voulez. Parce que j'ai toujours dit que, bon, il y a quelqu'un qui est dessus et quelqu'un qui est dessous. Voilà, il y a le dessus et le dessous. Il y a une pénétration, il y a une... Oui. C'est pour ça, du reste, que je l'avais écrit dans une préface que j'avais faite pour la traduction japonaise de Tombeau, très tôt, il y a déjà très longtemps, en 69... J'avais dit que si mes textes étaient déjà pleins de mal, en quelque sorte, c'était pour éviter de prostitutionnaliser la femme, si vous voulez. Voilà, c'est une réalité qui me suit depuis. De laquelle je sors un petit peu en ce moment, peut-être. Peut-être par ce texte. Peut-être par ce texte, peut-être. Oui. C'est possible, oui. C'est possible, oui.
Parce qu'il y a plein de femmes, et il ne me semble pas qu'elles soient prostitutionnalisées par le verbe.
Non, j'étais conscient de ça depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Là, il faut trouver toutes sortes de... Là, bon, voilà, je veux dire. Évidemment, c'est une sensation qui est peut-être juste, mais qui humainement n'est pas... C'est difficilement vivable, après, si vous voulez. Quand on vit dans une société qui est faite de couples et de couples d'enfants, enfin, etc., évidemment, vous arrivez là avec cette sensation très forte, vous êtes évidemment un peu à part, hein, forcément. Je suis pas le seul, hein, C'est ce qui fait que beaucoup d'artistes, du reste, écrivains ou artistes, musiciens, peintres, cinéastes, tout ça, ont été des gens sans descendance. Il faut quand même pas l'oublier, ça. C'est important. Il faut pas non plus en faire une histoire, mais enfin...
Il y a une règle.
Il y a quand même une proportion énorme, quand même, vous voyez. Je pense à quelqu'un comme le grand cinéaste russe, Eisenstein, par exemple, et tant d'autres.
De toute façon, il y a beaucoup de choses dans ce texte qui disent aussi que, pour la création, le jeune homme qui évolue dans ces pages est prêt à ne vivre la sexualité que dans le verbe, dans le texte.
Oui. Il y a aussi le fait que retenir son désir, c'est une force de plus pour l'art, si vous voulez. Toute cette force passe dans l'art, pas dans ce que vous faites.
D'ailleurs, le texte se termine, et je vais être précise parce que c'est la fin de notre entretien, mais avec quelle force de chair renouvelée.
Chair renouvelée, oui.
Merci beaucoup, Pierre Guyotat.
Je vous en prie. Merci
beaucoup. Idiotie, c'est le titre de votre texte. Il paraît dans la collection Figure aux éditions Grasset. Au son ce soir, c'était Julie Garraud, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain sur France Culture à 21h, quand vous voulez sur franceculture.fr et en podcast. Je remercie Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor qui m'aide à penser et préparer cette émission et je vous souhaite une très belle soirée.
On voudrait vivre encore. La même chose. Refaire peut-être encore le grand parcours. Toucher du doigt le point de non-retour. Se sentir si loin, si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense. On voudra revivre. Ça signifie faudra vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu, on se repose. Faut refaire encore ce que l'on aime. Replonger dans le froid liquide des jours toujours les mêmes. Se sentir si loin de son enfance. En même temps qu'on a froid, qu'on pleure, quand même on pense. On n'a pas eu le temps de terminer le livre. On avait commencé hier en grandissant. Dans le livre de la vie limpide et grimaçant. L'on était saumon qui monte, qui descend. Était saumon le fleuve éclaboussant.